Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Gare au Pixel. Gare au Pixel, l'épisode 8. On est le lundi 27 février. Je suis toujours accompagné de mon ami, mon acolyte, Monsieur Hardware, celui dont on dit qu'il a le petit auriculaire qui a été greffé à la place d'un...
vas-y, finis.
À la place d'une lampe à souder, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus.
Ouais, je ne sais plus,
mon
nom. Ah,
mon ami Laz, bonjour Laz.
Salut à tous.
Alors, quoi de neuf? Eh ben, pas grand-chose, on va vous faire un petit podcast un peu comme d'habitude.
Petit, c'est pas sûr.
Ouais, si, petit, c'est pas sûr, t'as raison.
Ouais.
On va sûrement s'étendre encore sur des sujets pas forcément très intéressants, mais...
Comme d'habitude.
Bon, ben, je vais vous proposer un petit sommaire de l'émission pour commencer.
De quoi se mettre en appétit.
Au sommaire de l'émission, on va commencer comme d'habitude avec des petites actus. Là, ce sera un peu plus sur les actus du podcast.
On va après poursuivre par le test de Banshee, un shooter sur Amiga 1200.
On continuera avec Tortue Ninja, le retour de Shredder sur Mega Drive.
Et on finira par une section qu'on n'a pas fait depuis un petit moment, qui est le pixel de trop, le jeu qu'il ne faut absolument pas acheter, d'après nous.
Oui. Oui, on a décidé de mettre le pixel de trop à la place du petit jeu indé. On change un petit peu.
Ouais.
On remettra un petit jeu indé sûrement le mois prochain, mais ou peut-être après, je sais pas, mais assez rapidement, parce que j'en ai récupéré 2-3 sympas,
ouais,
là, dernièrement. Et voilà. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir envoyer les actus.
Allez, c'est parti.
Alors, les news, les actus, bon, rien de foufou. On va pas tellement envie de vous parler de Double Dragon 4 qui vient de sortir, qui nous a pas fait trop rêver. La Switch, moi j'en ai marre de voir des news de partout pour juste nous dire le poids de la manette ou ce genre de choses, ça n'a aucun intérêt. On switch la Switch. Donc moi je vais quand même vous parler d'un peu de Nintendo. Si vous avez, parce que ça sera plus une actu du podcast, là, vraiment, c'est un peu ce qu'on a fait dernièrement. Donc moi, dernièrement, si vous avez un peu suivi le site, vous avez pu voir que je me suis payé une console bien rétro il n'y a pas longtemps, qui est la Twin Famicom, qui est une NES avec un lecteur de système disque intégré tout en un.
Fabriqué par Sharp,
mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est-à-dire je pense le mois prochain, on fera un test de jeu système disque dessus et on vous parlera vraiment des origines de la console, etc.
Du système disque et
voilà.
De ces choses-là.
Tout à fait. Et je m'en suis payé une autre, pas très longtemps.
Il arrête pas.
Ouais, j'arrête pas, là j'ai craqué... J'ai craqué là. Parce que certains vont sûrement dire mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, moi je rétorquerais que acheter une Wii U maintenant, c'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est quasiment du rétro gaming, on peut pas dire le contraire. La console elle est annoncée comme morte, il y a 5, 6 jeux, 7 jeux qui vont sortir encore cette année dessus,
ouais.
Ils arrêtent la production, enfin bon voilà. Donc moi je considère que c'est du rétro gaming, j'en prends une quand elles sont encore en bon état, je me suis pris un joli pack avec Mario Maker.
Moi voilà. Je dis rien mais je vomis en fait.
Il vomit en même temps. Merci. Voilà, je me suis payé ça histoire de rigoler, mais il y a des petits jeux, il y a des petites choses sympas à jouer dessus. Je vais essayer de me procurer les NES Remix et je vous dirai un peu ce que ça fait dessus. On fera peut-être des tests de NES Remix. Non, c'est bien, c'est une... Je te montrerai, je crois que tu connais pas, c'est vachement cool en fait.
Mais si, j'ai juste regardé d'un point de vue technique et l'émulateur de la Wii U pour les jeux rétro est tout simplement une grosse merde.
Oui, C'est pas faux, mais là c'est un, c'est pas une émulation.
Sur la NES Mini, c'est plus joli quoi.
C'est pas une émulation de d'un vieux jeu.
Non, non, c'est un nouveau jeu.
C'est un nouveau jeu à base. Voilà, c'est à base de jeux d'antan.
Ah ouais, non, moi
voilà.
Je pensais que tu parlais des trucs que tu peux acheter sur une Nintendo Store.
Non, non, pas
Store, là,
pas genre
jeux...
se refaire ouais. Pokémon Jaune.
Ouais, en émulé.
Voilà.
Parce que là...
Non, non, là c'est parler des NES Remix. Ça, ouais, okay. Je pense que c'est un truc qui sera assez cool à faire.
Bon, en même temps, je vomis pour sa Wii U et je me suis décidé après un an à jouer à ma Wii. Donc bon. C'est l'effet nouvelle console Nintendo. En fait, on ressort les vieilles rougnes et on joue dessus.
Voilà. Après, on s'est procuré justement pour la passion et un petit peu pour le podcast, mais surtout pour la passion, pas mal de jeux dernièrement. Donc, on a bien refait les stocks.
Yep.
Donc, on aura plein de nouvelles choses à vous proposer pour tout au long de l'année. Du coup.
Peut-être même des nouvelles consoles à vendre ou des choses comme ça aussi.
C'est possible aussi. Parce
pour ma part,
fait,
j'ai réparé pas mal de consoles de mon lot de consoles HS ces derniers temps, dont une. Ah non, la Master System 2, c'est vrai que tu me la piques.
Eh oui, je te la pique.
On fait un échange.
On fait un échange, je te file une NES, tu me files la Master
j'aurais
System.
Peut-être une Mega Drive 2 et des NES, peut-être, qu'on
ouais,
aura
bientôt,
à vendre
normalement.
Dans le podcast.
Et moi, en ce moment, j'essaye de m'amuser avec des bombes de peinture. Donc, quand je trouverai que le résultat est suffisamment satisfaisant, je vous proposerai peut-être une de ces consoles, justement, qu'on retape, repeinte, un peu custom, un peu sympa, quoi.
C'était tout pour les actus, je crois.
Ouais, c'est tout pour les actus. Moi, y a rien qui m'a spécialement marqué ces derniers temps en rétro.
Ah si, il y a une actu qui n'est pas encore tout à fait une actu, mais plusieurs fois on nous a parlé de faire des tutos vidéo, des choses comme ça.
Oui.
Et alors ça ne sortira peut-être jamais, attention, c'est un projet. Mais
c'est
je
un
me
prototype.
Suis, ouais. Je me suis filmé pour une réparation facile, donc je suis en train de voir ce que ça peut donner, si on peut diffuser ça sur YouTube, donc voilà.
Ah, pour l'instant, t'y travailles, oui.
Ouais, j'y bosse dessus.
C'est pas mal parti. Ça sera un premier jet, on verra.
Ouais, c'est
sûr. Vous nous direz ce que vous en pensez.
Je fais mon apprentissage du montage vidéo et c'est pas simple.
Ah non. Ouais, quand j'ai commencé le montage audio, c'était pas terrible, hein. J'ai eu du mal. Hein.
Ouais, ben moi j'en suis à ce stade-là, quoi. Au début.
Bon, ben maintenant je pense qu'on va passer au test de Banshee, non ?
Allez, Banshee. Ça fait un moment que dans le podcast, on n'a pas traité de jeux à Amiga. Et l'Amiga est sûrement une de mes plateformes rétro gaming et rétro computing préférées. Alors donc, je voulais absolument dans cet épisode qu'on revienne un petit peu à l'Amiga. Mais j'étais pas vraiment motivé pour tester un jeu que tout le monde connaît, un jeu auquel j'ai déjà joué. Donc j'ai fouillé un peu les entrailles d'Internet pour essayer de trouver un bon jeu auquel je n'aurais jamais joué et qui est pas a priori, qui est pas dans les plus connus, on va dire ça.
Ouais. Ouais,
voilà.
Tout à fait.
Alors, donc ce jeu, c'est Banshee. C'est un shooter à défilement
vertical
qui est sorti en 1994, édité par Core Design. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, donc c'est un jeu Amiga AGA, donc uniquement Amiga 1200, Amiga 4000 et Amiga CD32. Et donc c'est un shooter aviation très très classique, mais alors d'un classique à la 1942.
Ah, exactement, oui, ouais. Ça a bien
ce
design.
En plus,
ouais.
Avec à peu près le même esprit dans l'époque, les adversaires, les choses comme ça, on est très
Ah oui, c'est les ennemis font très allemand,
deuxième guerre
mondiale quoi.
Ou post deuxième guerre mondiale. Mais ça c'est au premier abord parce qu'après on s'est rendu compte en jouant avec Buzz qu'il y avait quelques petits trucs marrants au niveau des ennemis.
Ouais.
C'est un peu moins classique à partir du niveau 2 que ce que ça y paraît à l'origine. Donc ce jeu, j'ai pas trouvé énormément sur son histoire et des choses comme ça. C'est un peu le trou sur Internet, même le gros trou. Hein. On a
un peu cherché. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a un let's play sur, le, sur YouTube.
Ouais, pas vraiment d'infos sur le développeur
non
et
plus,
l'éditeur,
ouais,
qui pourtant a sorti pas mal de jeux, une trentaine de jeux sur Amiga.
Ouais, et puis sur d'autres plateformes aussi. Je me souviens de ce nom, Core Design.
Et moi, je me souviens de ce logo sur des jeux de PC-DOS à l'époque
tout
aussi.
Tout à fait, ouais.
Donc, bon, allez, on va revenir un petit peu au jeu, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose à dire sur le background du jeu et sur ce qui s'est passé autour. Donc c'est un shooter qui se compose de 4 levels. Alors vous allez me dire uniquement 4 levels. Mais non, en fait les levels sont très très longs. Avant d'arriver au premier boss, il se passe quoi ? Ça doit être le trip d'un premier level traditionnel de shooter en temps.
Je pense que comparé par exemple à un Aero Fighter, je pense qu'on fait 2 à 3 niveaux sur Aero Fighter.
Ouais, c'est
alors
ça.
Que là, j'ai mis plus de 10 minutes tout à l'heure.
Tu es pas loin du quart d'heure pour finir le level.
Bah oui, j'ai mis au moins 10 minutes pour arriver au boss.
Ouais. Donc après, dans le concept, je trouve que le jeu est... Bon, déjà, au niveau des options et des menus, des trucs comme ça, on a un jeu qui est disponible en 4 langues. Les options sont assez complètes, ça va de la configuration de la manette, en passant par la difficulté, qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelques options pour la gestion des bonus aussi quand on joue
à
deux.
Oui, apparemment il y a une gestion des bonus à deux, mais ça bon, on n'a pas pu le vérifier vu que t'as pas de dédoubleur de manette.
Ouais,
là,
j'ai pas de dédoubleur sur mon Amiga d'ailleurs, il faut que je bricole ça. Donc on a pu y jouer qu'à un seul joueur, mais donc du coup on peut jouer à deux. Et donc après c'est très classique, hein. Donc des upgrades qui apparaissent au fur et à mesure qu'on shoot des ennemis. Ces upgrades peuvent changer, quand on shoot les upgrades en fait elles pivotent sur elles-mêmes et du coup ça peut changer le contenu de l'update. Donc les updates ça va être des tirs plus rapides, un déplacement plus rapide, qu'est-ce qu'on a vu d'autre
Remonter la vie.
Ouais, remonter le shield, gagner des vies.
Un type de tir différent avec le tir en V, là.
Ouais, le tir à 45 degrés.
Des missiles. Avoir une possibilité de garder, malgré sa mort, ses upgrades,
ouais. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que du coup, souvent dans ce genre de jeu... On meurt et on revient avec les armes du tout début et tout. Et là, justement, il y a un bonus qui permet du coup de repopper sans perdre ses upgrades de vaisseau. Donc ça, c'est très très cool. Concernant le gameplay, après, bon, je sais pas, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Si, contrairement à beaucoup de jeux d'avion de ce type, on n'a pas de bombes.
À proprement parler,
qui fait énormément de dégâts comme dans la plupart de ces jeux où c'est un peu la bombe qui nous permet de nous sortir de situations un peu délicates en clignant l'écran. La bombe dans les shoot aviation, c'est souvent ça, quoi. Ça te cligne l'écran.
Ouais.
Et là, non, il n'y a pas de bombe. Par contre, il y a un looping qui permet de faire des dégâts, mais c'est pas aussi...
Alors, c'est pas très efficace, je trouve. C'est efficace, mais en fait, on est invincible pendant le looping,
ouais.
Mais on ne fait des dégâts qu'aux ennemis
qui sont en l'air. Ouais.
Parce qu'il y a deux types d'ennemis, tu vas le préciser, je te laisse préciser.
Ouais, il y a pas mal de types d'ennemis, donc il y a, des avions, des hélicoptères, enfin pas mal d'ennemis aériens, mais on trouve aussi des ennemis au sol, type, alors il y a des tanks, il y a des trains, puis il y a des voitures, on a aussi des ennemis suivant les zones, qui sont aquatiques, on va dire. Donc on a des
sous-marins, des bateaux.
On a aussi des ennemis que j'adore, qui sont pédestres. On a des petits soldats qui se trimballent sur la carte, là, des petits soldats à 5 pixels, et qui nous shootent à la mitrailleuse, au bazooka, un peu à tout. Et quand on les shoot, ils s'écrasent au sol avec du sang. Et je trouve ça... en plus, l'effet est super mignon. Enfin, c'est...
Ouais, on les entend crier
et
tout.
C'est vraiment bien fait.
C'est très cool, ouais. C'est très cool.
C'est assez marrant. Donc pour les ennemis, c'est à peu près tout, mais c'est hyper complet. On a même dans le niveau 2 à un moment des zombies qui sortent d'un cimetière. Donc c'est, ça paraît très classique au début, mais on n'est pas allé hyper loin non plus. On s'est arrêté au level 2 parce qu'il est très dur. Enfin, il est dur. Et du coup, peut-être qu'il y a d'autres surprises. Parce que là, en plus, j'ai des screenshots sous les yeux où ça tourne un peu alien les boss par moment. Donc une belle richesse d'ennemis. Graphiquement, c'est du. Alors, Buzz m'a dit tout à l'heure que c'était du bon 16 bits, ça va faire rager tous les amégaïstes. Mais ouais, on est dans ce qu'on peut avoir de mieux, je pense, sur ces générations de machines-là, quoi. C'est vraiment joli, ça ralentit pas un seul moment, ça va vite. Les sprites sont riches, les animations sont très jolies. Enfin. Moi, graphiquement,
ah oui.
Franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Le level design aussi, pour ce qu'on en a vu, est relativement bien branlé, quoi.
Ouais, et puis il y a des petites subtilités, c'est-à-dire que quand on passe un pont, quand il y a un pont, il faut bien passer à l'endroit du creux du pont, sinon on s'écrase sur le pont.
On s'écrase, ouais.
Voilà, ça je l'ai découvert à mes dépens tout à l'heure.
Et il y a aussi du coup des éléments de structure qui peuvent servir à protéger les ennemis. Donc c'est assez sympa ça aussi, parce que du coup les ennemis des fois se cachent derrière un truc, donc tu peux pas les toucher. Faut attendre qu'ils sortent. Pardon, j'ai pas bu de bière, hein. C'est juste du coca, mais ça fait des bulles. Donc ouais, alors la seule critique vraiment que j'aurais pour le jeu, c'est la musique.
Oui, l'absence.
Où est-elle passée ?
Voilà.
Qu'avez-vous fait ? Vous avez perdu la bande-son au moment de livrer le jeu ? Donc, il y a de la musique. Il y a une scène d'intro qui a une musique. Il y a de la musique dans les menus. Enfin, dans le menu de départ du jeu. Mais alors, par contre, in-game, on n'a plus aucune piste musicale. Alors, il y a des bruitages d'explosions, de tirs, qui sont relativement sympas. Mais il n'y a absolument aucun fond musical. Alors, je sais pas, moi j'en viens à penser que ce jeu a eu un petit problème de financement à un moment ou quelque chose comme ça. Et que du coup, ils ont pas pu. Je vois pas pourquoi il me semble pas que c'est un choix délibéré. Enfin, je sais pas. Si quelqu'un connaît un peu mieux l'histoire de ce jeu que moi et a la réponse à cette question, où est passée la musique de Banshee? Je suis preneur de l'information. Et puis voilà, j'aime pas dire voilà, mais on a à peu près tout dit sur Banshee.
Ouais, c'est vrai que bon, c'est pas trop étendu dessus, mais c'est un très bon shooter. Moi, je l'ai trouvé très beau. Pour donner un comparatif à nos amis qui sont plus consoleux, on va dire, moi je dirais que c'est une Super Mega Drive avec quelques effets qu'on pourrait avoir sur
Super, ouais, des transparences que
des
tu pourrais pas avoir.
Des transparences qui avait pas sur
Un beau jeu de Mega Drive. Attention,
sombre portage
de jeu de Master System dégueulasse.
C'est vraiment très très beau. Je pense que la Mega Drive pourrait afficher.
Je pense que la Mega Drive pourrait faire tourner
si
ça.
Si ce n'est cet effet là de brouillard à un moment qu'on a, je pense qu'elle peut faire tourner le tout à la bonne vitesse, à la même vitesse.
Ouais, je pense
sans
qu'il y a
souci.
Juste quelques effets graphiques là qui sont propres aux chips spéciaux Amiga. Du coup, comme la brume, l'effet de voile, les trucs comme ça qui passeraient peut-être pas sur une Mega Drive. Mais bon, ouais, c'est un très beau jeu.
Ah ouais, ça, j'ai été agréablement surpris parce que bon, je l'avais entreaperçu une fois en venant chez toi et là, avant le podcast, j'ai quand même voulu y rejouer parce que je suis toujours pas équipé Amiga, moi, à la maison, donc... et oui, honte à moi, mais j'y viendrai.
Un jour, je te prêterai l'Amiga 500.
Ah oui, c'est vrai que t'as un Amiga 500 qui prend la poussière, ouais.
Ouais.
Faudra que je le récupère.
Mais tu pourras pas
jouer
à Banshee dessus.
Ah oui, malheureusement, oui, je pourrais pas jouer à Banshee. Bon, il y en a d'autres qui sont sympas quand même.
Tu dois pouvoir trouver des jeux sur un Amiga 500 pas mal.
Ah, mais franchement, c'était bonne surprise.
Ouais.
Ce qui m'a vraiment surpris aussi, sur le coup, c'est la longueur du premier niveau, quoi.
Ouais.
Je me demandais si j'avais déjà battu, parce que j'ai battu des
gros ennemis,
des gros ennemis qui étaient assez longs à battre. Donc je me demandais si c'était ça ou pas le boss, mais le niveau finissait jamais. Et par contre, quand je suis arrivé au boss, oui, c'est bon, j'ai compris.
Rendu compte,
voilà, ouais, on s'en rend compte. Hein, il prend les trois quarts de l'écran. C'est une espèce de grosse grue qui balance un
boulet de destruction.
Un boulet de destruction avec des pics dessus.
Qui est hyper difficile à éviter. Enfin, bon, c'est déjà le premier boss.
Mais c'est très original. On n'avait jamais vu ça comme type de boss. Et je m'attendais pas du tout à ça en plus. Pas mal d'originalité. J'ai beaucoup aimé, comme moi aussi, les petits soldats.
Ouais. C'est marrant.
Qui sont assez durs à shooter au final vu qu'ils sont tout petits, mais par contre eux ils envoient du pâté, hein. Ça envoie de la boulette, hein.
Quand ils sont derrière des gatlings ou des trucs comme ça là, tu prends cher, quoi.
Ah, on prend facilement cher, quoi,
parce qu'ils tirent vite et ils font des dégâts. Donc ouais, bah, c'est un jeu que si vous trouvez Banshee au hasard d'un vide-grenier ou je ne sais pas.
Ah, ou vous voulez essayer via émulateur. Hein.
Aussi, mais pour avoir les ROM, il faut avoir les jeux originaux, vous le savez.
Oui. Normalement, oui.
Ouais, bah, moi en plus, j'ai essayé de le trouver un petit peu sur eBay ou sur des choses comme ça, et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est pas un jeu qui a été, je pense, énormément vendu. Donc bon courage.
Ce qui est dommage parce que bon, c'était peut-être pas le... Bah, juste à cause de sa finition, son manque de musique et tout.
Ouais, mais bon, regarde, nous il y a pas la musique, mais on y a joué.
Ah, mais on s'est éclaté, mais il est peut-être passé un peu inaperçu, ou il a peut-être pris pas des mauvaises notes, mais des notes pas terribles à cause de ça à l'époque, et je sais pas où. Après, comme on sait pas trop l'histoire de Core, Core Design, là, peut-être que c'était sur la fin de, sur leur fin de vie, je sais pas. Ouais. Je préfère pas dire de bêtises, d'ailleurs, je vais me taire là-dessus.
On va pas trop supputer.
Voilà, mais vraiment, c'est un bon petit jeu, quoi. C'est à essayer, ça. Ouais. Vraiment à essayer.
Si vous avez un Amiga 1200 ou un Amiga 4000, vous pouvez essayer ça. Ou sur CD32 aussi.
Sur un 3000, ça passe? Non.
Non,
non, pas les 3000. Non. D'accord. Ah, moi, je suis pas assez au fait encore de ces machines.
Oh, ouais, mais c'est trop compliqué. Bon, pas vrai. Allez, on va passer au jeu suivant.
Allez, c'est parti pour le deuxième test rétro. Alors, ce mois-ci, parce qu'on arrive à les faire par mois maintenant, t'as vu, c'est impressionnant.
C'est clair, on arrive presque à sortir un truc par mois.
Ah, pour l'instant, on y est arrivé, là.
Ouais, là, on va être un petit peu décalé. Oh, quoique, si, non.
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 Non, normalement, j'arriverai à le sortir demain soir, donc il devrait être disponible le 28 pour le février. Pour février.
Ok.
Donc, on devrait être bon. Donc, revenons à nos moutons. Oh, la pauvre bête. Abattez-la. Abattez-la.
Il est malade, ce mouton.
Abattez-la vite. Donc, on va repasser sur la Mega Drive, une console dont on n'a pas trop parlé, on n'a pas trop traité de jeu dessus. Et celui-là, c'est un qui est particulièrement bon à mon goût. C'est Turton. Allez. C'est Teenage Mutant Ninja Turtle The Hyperstone Haste, ou nous, la version qu'on a testée, la version japonaise, qui s'appelle The Return of Shredder. Alors, c'est un jeu, c'est un beat'em all basé sur les Tortues Ninja, sorti en décembre 92 aux États-Unis, en décembre 92 aussi au Japon, et pour l'Union Européenne et le reste du monde en 1993.
J'ai cru que tu allais dire 2017, mais...
Non, non, ils ont pas tardé à ce point-là quand même chez Sega. Donc c'est développé et édité par Konami, distribué uniquement par Sega parce qu'il n'est disponible que sur Mega Drive, celui-là de jeu. Donc c'est un beat'em all, tout ce qu'il y a de plus classique à la Final Fight, tout ça. Ceux qui connaissent la version Super NES des Tortues Ninja qui est Turtle in Time ne seront absolument pas dépaysés, ça se ressemble beaucoup beaucoup. Et comme, bon, c'est pas que j'aurais pas grand-chose à dire non plus sur le jeu, parce qu'il est franchement bien, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais vous parler de Konami, plutôt, parce que on connaît cette grande société de jeux vidéo depuis des années, pour tous ses succès, mais on sait pas trop comment elle a été formée et quand. Donc moi, j'avais envie de vous faire un petit peu l'historique rapide, hein, on va pas y passer 3 heures non plus, de Konami. Alors, Konami, ça a été créé... en 1969, excusez-moi pour les noms en japonais, je vais encore être très très mauvais, hein. Kagemasa Kozuki veut monter une affaire de location et de réparation de jukebox à Osaka. Voilà, c'est parti de là à la base, comme pas mal d'autres boîtes à l'époque qui faisaient des importations de jukebox, de flippers, et puis qui ont viré vers le jeu vidéo. Bah, Konami a commencé comme ça aussi.
Sega a commencé comme ça aussi.
Voilà. Elle devient rapidement l'une des plus importantes et célèbres dans ce secteur. Son siège social après se base à Tokyo. En mars 1973, la société Konami Industry Co. Ltd. est établie. Et Konami... Et la conjonction du nom des 4 cofondateurs, en fait. de Kagemasa, de Yoshinobu, alors je donne que leur nom de famille, hein, de Hiro et de Shokichi.
Du coup, j'ai du mal à voir comment on en arrive à Kodami avec tout ça, mais...
Alors, K de Kagesama, O, ça doit être... le Na, je le vois. Alors, attends. Ouais, le K de Kage, le O de Yoshinobu. Ils ont pris O, pas le Yo, ils ont pris le O. Un, tac. Après, Kona...
console. Voyelle. Console.
Oh putain, oui, je sais pas comment ils ont fait, quoi. Enfin, moi, ils sont bon, démerdés, hein, on s'en branle. De toute façon, ça sera coupé, ça.
Oh non, c'était bien. Ce ramage.
Ah, ce ramage, il est aussi beau que mon plumage, là. Allez, posons les fiches. Voilà, je reprends la suivante pour continuer un tout petit peu l'historique, on a bientôt fini. Donc à partir de 1982, Konami se lance progressivement sur le marché des systèmes familiaux et micro-ordinateurs, consoles de jeux, et ils commencent d'abord avec le MSX et le PC-88.
D'accord.
Ils ont une machine spécifique au Japon.
Tout à fait.
Et après, avec les consoles de jeux, ils attaquent avec la SG-1000, donc l'ancêtre de la Master System chez Sega, et avec la Famicom et la NES pour Nintendo. À la base, ce qu'ils font surtout, c'est porter des jeux qui existaient sur arcade. Mmh. Alors, je vais citer quelques grands jeux, parce qu'après, bon, l'histoire de Konami n'est pas super intéressante. Ça devient juste une grande boîte qui fait des bons jeux. Et voilà, il n'y a rien qui vraiment, à part l'arrivée et le... Avec l'arrivée du grand développeur Kojima, quoi, qui nous a fait la licence Metal Gear. Mais ils ont fait énormément de très bonnes licences avant, comme par exemple Castlevania, Gradius, les Turtles in Time, Metal Gear donc, Contra ou Probotector pour nous en Europe, Frogger. C'est eux. Alors je sais plus si c'est eux qui l'ont développé carrément ou s'ils l'ont juste porté sur console ou PC, etc. de l'arcade. Silent Hill, voilà, enfin encore plein de Beatmania, plein de titres très très connus. Ils ont aussi fait un petit peu de production de manga. Voilà, mais c'est très interne au Japon. Ouais. Bon, maintenant on va parler du jeu un peu.
Ah oui, c'est vrai qu'on parlait d'un
jeu. Oui, à la base on parlait d'un jeu, mais je voulais revenir un petit peu voilà sur les débuts de Konami parce que on sait pas forcément de quand ça date tout
non,
ça
c'est
et,
bien.
Et c'est assez intéressant de savoir un peu sur ces grandes entreprises je trouve enfin moi j'aime bien. Voilà.
Fais-toi plaisir.
Voilà. Et ben je me suis fait plaisir. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi.
Ah, c'est pour avoir un peu de culture.
Alors, ce jeu Tortue Ninja.
C'est un jeu.
C'est un jeu. Ça déjà, c'est sûr, c'est un
jeu. Auquel on joue.
Auquel on a joué tous les deux en plus.
Ouais. Et qu'on a fini.
Et qu'on a fini. Alors, graphiquement, ça ressemble énormément à ceux qui connaissent à Turtle in Time. On a pas un clone quasi parfait, mais presque quoi.
Ouais,
graphiquement.
En fait, Nintendo à l'époque imposait aux éditeurs d'avoir des jeux propres à sa machine.
Oui,
dans
c'était
le cas
très
présent,
rare,
la Famicom ou la NES. Et donc du coup là pour pouvoir aussi, enfin Konami ne pouvait pas porter le jeu à l'identique sur d'autres machines. Donc du coup ils ont fait un autre jeu, mais bon.
Enfin ils ont fait une variante.
Ouais, mais dans la conception, les sprites, le chara-design,
les sons, tout ça c'est les mêmes.
C'est vraiment pareil quoi.
C'est la même base. Alors,
mais il y a quand même, les deux jeux se ressemblent énormément, mais il y a quand même de l'originalité.
Ouais, de chaque côté.
De chaque côté, quoi. C'est pas juste, on change quatre sprites, un peu l'histoire, et on vous recycle tout ça. Non, non, c'est quand même.
Il y a un petit peu plus que ça, mais il y a quand même pas mal de recyclage aussi.
Ouais.
J'y reviendrai dessus. Donc, juste pour faire un petit comparatif avec Turtle in Time, qui est beaucoup plus connu, que sûrement beaucoup connaissent, Turtle in Time a beaucoup plus de niveaux. Mais par contre, ces niveaux sont beaucoup plus courts. Mais il reste quand même un jeu qui est un petit peu plus long à finir que Hyperstone Heist. Et par contre, sur Mega Drive, il y a moins de niveaux, mais il y a des sous-niveaux dans les niveaux. On a plusieurs environnements pour le niveau 1, plusieurs environnements pour le niveau 2, etc.
Ouais, le level design n'est pas du tout le même.
Oui, certains designs ont été créés spécifiquement d'ailleurs pour la Mega Drive. Mmh. Alors j'ai réussi à voir aussi que apparemment, et moi ça m'a paru extrêmement bizarre, les voix digites sur Mega Drive sont censées être de moins bonne qualité que celle de la Super Nintendo.
Ouais.
Et pourtant, enfin, moi qui suis un grand fan de la version Super Nintendo, je l'ai bâché dans tous les sens quand j'étais gamin, et je m'en refais un petit de temps en temps encore régulièrement. Je trouve moi que les voix, elles sont mieux faites sur la Mega Drive.
Moi, j'ai pas en tête celle de la Super Nintendo, mais du coup, ouais.
Faudra essayer. Ça fait plus crade, plus. Enfin, je les trouve moins bien ouais. faites, moi. Je les trouve moins bien faites.
Moi, je les trouve pas géniales sur Mega Drive, mais bon.
Voilà,
c'est du digit de l'époque.
Ah oui, non, mais elles sont pas ultra géniales, mais je les trouve de meilleure qualité.
Ouais.
On comprend mieux ce qu'ils disent sur Mega Drive, à mon goût, que sur Super NES.
Je lancerai la version Super NES tout à l'heure pour
checker ça. Ouais, pour que tu vois.
Ouais.
Que dire d'autre ? Alors, aussi, en petite différence entre les deux. Comme la Mega Drive ne gère pas de mode 7, on ne peut pas envoyer les ennemis dans l'écran.
Ouais.
Ce qui était une grosse part de gameplay, ça, sur
le Turtle
in Time. Ah oui, c'était énormément de fun. Voilà. C'est à la limite le seul petit reproche qu'on peut lui faire, parce que sinon, après, le jeu, il est top.
Ouais, c'est clair.
Il est super péchu, ça va dans tous les sens. Les musiques, c'est les mêmes que sur Turtle in Time, mais elles sont très bien rendues.
Ouais.
Ils ont bien exploité le chipset sonore de la Mega Drive. Au niveau du gameplay, c'est exactement la même chose.
Ouais.
Un bouton pour sauter, un bouton pour attaquer, et un bouton si on le désire pour le coup spécial.
Ouais.
Voilà.
Si moi j'ai trouvé que les attrapes étaient beaucoup plus difficiles à réaliser.
Effectivement, parce que oui,
donc pas mal de mal à choper.
Il fallait
comprendre comment le faire.
Même je suis pas sûr d'avoir vraiment encore compris comment on le faisait, alors que sur Super NES, j'avais bien le coup quoi. Là oui, c'est vrai que ce petit élément de gameplay là est moins agréable.
Ouais, dans la différence aussi, il me semble que sur la version Mega Drive, du coup, on peut changer la couleur de ces persos, choisir entre le mode comics et le mode je sais plus quoi.
Animé, mais c'était possible aussi de le faire dans la version Super NES.
Ah, ok, pardon.
Voilà. L'écran titre et l'écran d'options sont des copier-coller l'un de l'autre. Hein.
C'est le même.
Il y a que le titre en haut qui change du coup de Turtle in Time. Nous, c'était The Return of Shredder. Parce que je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est The Return of Shredder.
Si tu l'as dit dès le début.
Ouais. Bon, autant pour moi. Voilà. Après, oui, il est super péchu, on s'amuse bien.
Est super bien gérée.
La difficulté est bien gérée. Très progressive.
Ouais.
Le jeu est quand même un tout petit peu plus dur du coup que sur Super NES, parce que justement, comme sur Super NES, au bout de tant d'ennemis vaincus, on regagne une vie. Là, c'est pareil, mais sur Super NES, quand on envoyait les ennemis sur l'écran, ils comptaient double. Donc en fait, ça nous faisait monter beaucoup plus vite le compteur. Et là, du coup, comme on peut pas le faire, le compteur monte moins vite et on gagne moins de vie supplémentaire.
Ouais.
Et l'IA est un petit peu plus retors sur Mega Drive.
Ah ouais,
ça, c'est même noté dans les tests
de l'époque et tout.
Voilà. Moi, c'est un jeu là que j'adore.
Oui.
Il est excellent. Alors vite fait là, parce que c'est vrai que j'ai oublié un petit point sur l'histoire, la différence avec Turtle in Time. Alors l'histoire, c'est que Shredder récupère la pierre d'Hyperstone dans la dimension X avec Krang et s'en sert pour faire disparaître les monuments et des buildings de la ville. Et menace le monde, essaye de prendre sous son emprise le monde. En menaçant avec la puissance de cette pierre. Et du coup, les tortues ne sont absolument pas d'accord. Et elles vont casser la tête à Shredder.
C'est très original comme histoire.
C'est tout à fait original. Niveau originalité aussi, là où j'ai été très, très, très surpris, parce que j'y avais pas joué moi à l'époque, j'avais fait que la version Super NES, c'est au niveau des boss. Alors, les boss, il n'y a eu que deux vraies réutilisations par rapport à la version Turtle in Time, qui est, alors je me souviens absolument plus de son nom, mais qui est le boss crocodile.
Ouais.
l'espèce de mutant crocodile là qu'on rencontre directement alors qu'on rencontre au niveau du train dans le Turtle in Time. Alors celui-là c'est exactement le même, il a exactement le même pattern. Le Shredder en boss de fin est exactement le même, exactement les mêmes patterns que sur Super NES aussi. Et après ce sont des boss qui soit ont été redesignés, soit qui n'étaient pas dans la version Turtle in Time, et je trouve ça assez sympa qu'ils aient pas fait justement copier-coller,
du recyclage sauvage
quoi. Non, ouais. Là ils ont quand même,
il y a un chara-design particulier et tout, ils ont bossé quoi,
ils ont bien travaillé. Après c'est comme on a les mêmes animations que dans le premier, bourré d'humour. Quand on se fait rouler dessus, on a la tortue qui est aplatie. Quand on se fait brûler, on a la tête à moitié cramoisie pendant une paire de secondes. Enfin le jeu est très très drôle. Les animations des persos sont très très drôles, très réussies, c'est très fluide, c'est très nerveux aussi. Je le trouve même plus rapide. Alors, moi j'ai l'habitude d'y jouer en 60 Hz sur la Super NES. Donc à la vitesse normale du jeu comme il aurait dû être, il est déjà bien péchu. On y a joué chez toi là sur une Mega Drive en 50 Hz.
Donc... Non, on a joué sur la tienne en 60 Hz.
Non, on a joué sur la mienne. C'est sur la mienne qu'on
a commencé à... On a voulu le tester sur la mienne, et puis après, vu que t'avais la tienne...
Ah oui, c'est vrai.
J'ai dit, vu que la mienne n'est pas modée, on a dit, on va le faire sur la tienne en 60 Hz.
On l'a... Oh là. Oh, le ressort, tu te calmes. Et donc, ouais, il est plus rapide que le...
Que la version...
Que la version Super NES. C'est plus péchu.
Moi, c'est vrai que quand on y a joué, là, j'ai eu une impression de fluidité que la version Super NES, effectivement. Mais en même temps, ça fait un moment que j'ai pas joué à la version Super NES, donc je suis pas sûr d'être...
Mais de toute façon, dans pas longtemps, je te la ramènerai, tu verras... Celui-là, c'est la cartouche dont je suis, une des cartouches dont je suis le plus fier.
C'est mon jeu, mon bébé.
Ah oui, c'est mon bébé. C'est un bébé que j'ai trouvé dans un cash converter il y a plus de 15 ans à 2 euros.
Ouais.
À l'équivalent de 2 euros. Donc, je l'avais payé, je crois, 10 francs.
Tu as la boîte ou pas?
Non, il était en loose.
D'ailleurs, appel aux auditeurs. Si quelqu'un aurait la boîte de Turtle in Time.
Oh, ça m'étonnerait qu'il me l'offre, parce que vu le prix qu'elle coûte, je crois qu'un complet inbox, c'est 100 balles sur eBay. Et juste le jeu est à 40 ou 50 balles, il me semble, d'après ce que je me souviens.
Ouais, donc je pense que c'est un jeu qu'on ferait plus facilement en émulateur que.
Oui, c'est.
C'est la
version
Super NES.
Mais même la version Hyperstone Haste est très chère. Ouais. Je crois que c'est aux alentours de 70-80 euros.
D'accord.
Complet en boîte et un peu plus de 50 euros en loose.
Ouais.
Alors après, vous savez que je trifouille un peu du côté des sites un peu chinois où il y a un peu des copies. On arrive à trouver le jeu à moins de 10 euros en copie chinoise, version Mega Drive.
Ouais.
Donc si vous voulez vraiment l'avoir en version cartouche, ça peut se faire. Bon, c'est pas recommandable, mais je vous le dis quand même.
Jouez sur émulateur si vous avez pas de quoi vous payer un original.
Voilà, c'est bien aussi. Bon, moi franchement, on s'est bien régalé quand on a fait cette partie deux.
Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait.
Et puis surtout qu'on n'avait pas fini un jeu ensemble aussi. La dernière fois, je crois que c'était.
C'était au début sur nos premiers épisodes, je pense là.
C'était le shooter c'était... là, c'était.
C'est souvent des shooters ou des.
Sonic Wing 2 là, on l'avait fini. Hein,
ouais. Yep. Ouais.
On l'avait fini. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'avait pas des fois eu trop le temps ou l'envie trop certains jeux, même s'ils étaient bons. Et là, on a mis quoi ? On a mis 35 minutes, je crois, 40 minutes pour faire le run à deux, sans trop galérer.
Non, franchement, ça s'est déroulé. On n'a pas galéré du tout. On a juste pris du plaisir pendant une petite heure. C'est une bonne session de gaming, quoi. J'ai bien aimé.
Voilà, et puis il y a des petites variations aussi. Il y a un niveau où on est sur des skateboards aussi. Là,
l'entrée du niveau 3, je crois.
Oui, il me semble que c'est l'entrée du niveau 3.
Ça dure pas très longtemps.
Non, mais il y a des petits passages comme ça, comme il y avait sur Super NES, où on était dans les égouts, justement, où on devait éviter...
Que d'ailleurs, je me suis fait, blaster complet là, sur cette petite partie en overboard, d'ailleurs, même, je dirais.
Oui, ça ressemble plus en overboard.
J'ai pas bien compris le truc. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps.
Ah, il y en avait deux sessions sur Super NES de ça.
Ouais, peut-être, ouais.
Ouais, mais bon, un peu moins long, mais
tout aussi bon.
Mais tout aussi bon, car un peu plus intense que l'autre. Ça fait des parties un poil plus courtes, Déjà, en facile, il est facile, ça va, il se fait sans problème. En normal, il commence à être tort, il faut un peu connaître le jeu, bien connaître
ouais,
les patterns, surtout les boss, du coup.
Ouais, mais, parce que les ennemis sont pas très très revêches, quand même. Enfin, une fois que t'as compris leur pattern, ça se fait bien, quoi.
Oui, voilà, ça va bien. Mais aussi, c'est par contre, dès qu'on passe en difficulté hard, on a beaucoup plus d'ennemis qui partent, donc on est obligé soit d'utiliser un coup spécial, soit d'arriver à passer dans leur dos pour pouvoir les...
Sachant que le coup spécial consomme de l'énergie.
Oui.
C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Mm.
Moi aussi, j'ai pas précisé qu'on trouvait quelques objets à utiliser, très très peu d'ailleurs.
Il y a des pizzas.
Il y a des pizzas pour se remonter la vie et la boîte à pizza avec une bombe dessus qui permet de tourner sur soi-même, d'être invincible et du coup de tuer en one shot
tous les ennemis
qui sont à portée. On peut se déplacer, on fait
la toupie. Mais c'est vrai, question item, il y a pas grand-chose.
Non, question, ben il y avait pas plus sur la Super NES.
Non, mais en plus, il y a pas besoin de plus quoi. Mm. Juste ça. Parce que tu as pas besoin d'avoir des armes vu que chacun de tes persos a son arme privilégiée, donc tu peux choisir si tu veux un gars qui a de la longe prendre Léo.
Prendre Denis, ou Léo.
Voilà, et si tu veux plus être au cac, tu prends Raph et
Ouais, bon, d'ailleurs, je préfère plus Raph qui était censé faire plus mal sur Super NES. Enfin, sur Super NES,
il faisait plus de dégâts,
oui. Il y avait un coup ou deux de moins à mettre sur les boss là. Pour faire péter un carré,
ouais,
en fait,
d'accord.
Comparé aux autres. Du coup, bah, fallait bien qu'il ait un avantage vu qu'il était pas.
Vu qu'il s'en prend plein la gueule.
Oui. Ah, mais c'était mon perso préféré, et d'ailleurs, quand on a refait là, je l'ai très vite repris, ouais. Et ça a commencé à aller beaucoup mieux dès que je l'ai repris aussi.
Ah, parce qu'on a commencé, on était inversé, t'étais avec Léo ou Donatello, je sais plus.
Non, t'avais pris Léo et moi j'avais pris Donnie, ouais. Donatello, et après, bah, toi t'as essayé Donatello et moi j'ai
et
pris. Je suis passé sur Raph là quand on a eu chacun un continu à faire. Et du coup, bah, on les a quasiment tous essayés. Après, moi, celui que j'ai jamais aimé, c'est Mickey pour jouer, parce que je trouve que son allonge, il a quasiment autant d'allonge que Raph, mais il fait pas suffisamment de dégâts. Après, c'était sur Super NES, donc bon. Ouais. Là, c'est vrai que je l'ai pas essayé. Juste préciser qu'à l'époque, le Turtle in Time sur arcade, il y avait des arcades où on pouvait jouer à 4 en même temps.
Ça devait être magique.
Ah, ça devait être excellent, ouais. Chacun son stick, ses deux boutons, et en fait, tu choisissais pas player 1, player 2, tu choisissais vraiment le personnage.
Ouais.
Chaque bout de la board
et
avait la couleur.
Tu jouais sur quoi sur un écran Non, c'était pas un écran.
Ah non, c'était exactement le même jeu, mais à part qu'être à 2, bah, t'étais à 4 sur l'écran. Alors ça faisait un joyeux bordel. J'ai vu un let's play.
Ouais, j'aimerais bien tester ça, mais ça doit être dur à trouver, je pense. C'est sorti sur quoi comme borne, du coup?
Je crois que c'est une carte JAMA.
Ouais, parce que c'est pas sorti sur Neo Geo MVS.
Non, c'est pas. Il me semble pas que ce soit un standard.
Ouais, c'est un PCB. Ouais, remarque,
c'est un PCB JAMA
ça,
particulier.
Je chercherai ça.
Après, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Après, il existe en plusieurs versions. Il y a la version que 2 joueurs aussi en arcade et la version 4 joueurs.
Ouais. Je regarderai sur eBay si on peut pas. Ouais. Ça pourrait être marrant.
Bon, bah pour conclure, moi je trouve que c'est... Ah oui, si, quelque chose que nous n'avons pas précisé, juste, c'est que nous n'avons pas joué à la version originale de la cartouche. Le jeu venait de la cartouche 112 en 1 qu'on vous avait présenté la dernière fois.
Avant.
Voilà. Et absolument aucun glitch graphique, aucun glitch de musique, tout est... il est passé impeccable. Voilà.
Ah oui,
juste pour préciser ça, on l'a pas fait vraiment, on l'a pas fait sur émulateur, on l'a fait vraiment sur la console. Mais pas avec un jeu vraiment original. Mais il passe en tout cas très très bien. Je crois que ça doit être le ou dans le top 3 des meilleurs beat'em all de la Mega Drive. Et...
Bah, en tout cas, j'en ai pas fait des masses, mais celui-là était bien.
Ah bah moi, je m'en suis refait à la maison avant que j'essaye de la repeindre, là, ma Mega Drive. Je m'en suis refait une session. Ouais. J'aime beaucoup. Bon. On va passer à la dernière séquence.
Le truc le plus rigolo. Le pixel de trop.
Le dernier test du podcast, ce sera un pixel de trop cette fois-ci. Le jeu qui paraît bien sur le moment, mais qu'en fait, ça reste quand même une grosse bouse.
C'est une très bonne intro.
Ouais, ça te plaît ?
Ouais.
Bah allez, on la garde alors. Alors, le pixel de trop de cette fois-ci, c'est Hyperzone. Hyperzone, c'est un rail shooter qui est sorti sur Super Famicom et sur Super NES, qui n'est pas sorti en Europe. Alors, je vais préciser un tout petit peu les dates. C'est sorti le 31 août 1991 au Japon et en septembre 91, très peu de temps après, du coup, aux États-Unis. Alors, le jeu a été développé et édité par HAL Laboratory. Je vais vous faire un petit résumé rapide de HAL aussi, une entreprise dont le nom n'évoque sûrement pas grand-chose comme ça au premier abord, mais qui est en fait une entreprise incontournable dans le jeu vidéo. HAL est un studio de développement japonais qui a été fondé en février 1980 et qui s'est étroitement affilié avec Nintendo. Il s'est basé à Tokyo et n'a pas bougé depuis apparemment. La société alors a pris ce nom parce qu'en fait ça correspond à chaque lettre de l'alphabet qui se trouve avant celle d'IBM. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas, c'est drôle.
Tout, ma foi.
Et cette société est très célèbre pour un jeu en particulier, enfin un personnage en particulier, parce que c'est elle qui gère encore ce personnage, qui développe les jeux. C'est Kirby. Voilà, ce sont les papas de Kirby. Par exemple, voilà. Je vais vous donner des exemples de jeux qui ont été développés par HAL. Alors nous avons donc Kirby, Adventure of Lolo, qui est un platformer très connu, et il y en a eu plusieurs, 1, 2 et 3 il me semble, au Japon. Galforce, qui est un shooter, et tout ça c'est sur NES et Famicom. Le premier Mother, Earthbound en version US. Et Kirby par exemple, voilà. Après sur Super NES, donc Earthbound qui était sorti aux États-Unis, SimCity, c'est eux qui ont fait le portage de SimCity, tous les Kirby évidemment, ouais. Pour dire encore quelque chose de voilà, sur la 64, ils ont participé aussi à Pokémon Snap qu'on avait testé très récemment.
Ah ouais, ouais, un bon jeu encore.
Oui, voilà. Et ils ont fait SimCity 64.
Un bon jeu encore.
Voilà. Moi après là, ils sont vraiment très affiliés à Nintendo parce que je vais pas vous faire le listing complet des consoles Nintendo. Ils y sont partout, sauf pour le Virtual Boy. Voilà.
D'accord. Mais même sur Wii U,
oui,
DS,
oui,
et tout,
oui,
ils sont
oui,
encore là,
ouais. DS, 3DS, tous les Kirby,
oui,
c'est eux qui les font.
Ouais.
Et ils ont développé à leur début sur du matériel un petit peu différent pour des Japonais. Ils ont développé sur du Commodore 64, et d'abord, pardon, je le donne pas dans le bon ordre, sur du Commodore VIC 20 et sur du Commodore Max, et après sur du Commodore 64, qui sont les ancêtres du Commodore 64. Ils ont développé, alors j'ai vu sur Wikipédia, peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais il était donné qu'un seul nom, un seul jeu sur ColecoVision.
D'accord.
Voilà. Et quelques jeux sous Windows. Bon, évidemment, des MSX aussi pour le Japon. MSX, MSX2. Voilà, c'est tout. Mais ils sont, les papas de Kirby. Et je pensais que c'était un vrai personnage Nintendo, Kirby. Tu vois,
ouais,
je m'étais jamais renseigné sur le personnage. C'était tellement une emblème de Nintendo.
Oui, c'est comme Link ou
voilà,
Mario.
Voilà,
ouais,
on se dit, c'était pas eux. Mais ils travaillent quasiment exclusivement que pour Nintendo.
Oui, parce qu'à part
façon,
à leur début et quelques jeux PC, l'essentiel de leurs titres sont sur Nintendo.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Hein, ils ont tout fait. GameCube, Wii U, 64, enfin tout. Les portables aussi, toutes les portables. Voilà.
Ils ont annoncé des jeux sur Switch ?
J'ai pas vu. J'ai pas regardé, mais il y aura sûrement un Kirby sur Switch.
Voilà.
Il y a eu un Kirby sur au moins toutes les consoles, donc il y aura au moins un Kirby sur Switch.
Tiens, d'ailleurs, il y a un Kirby sur Wii, il faut que je l'essaie.
Oui, il est très bien.
Vu que je suis dans ma phase Wii.
Il est très très bien. Et moi, il y a un Kirby sur Wii U et il est très bien aussi. Le Robo Wars, je crois que c'est.
Je sais pas.
Bon. Peu importe. Revenons.
À nos moutons.
Alors, Hyperzone. Hyperzone, qu'est-ce que c'est ? Alors.
C'est du mode 7.
C'est du mode 7. Vous prenez en fait F-Zero. Voilà.
Ouais.
Vous prenez F-Zero, vous prenez Space Harrier, vous les faites copuler tous les deux un soir où ils ont un peu trop picolé et...
Oh, et de la drogue même, de ouais, la drogue, ouais, de l'alcool et de la drogue.
Ouais, non, c'est pas trop la drogue, moi je pense que c'est une grosse cuite quoi, mais ils ont bien mélangé les alcools quoi.
Ouais.
Parce que c'est pas trippé, c'est juste...
Ah non, c'est pas trippé, c'est...
C'est juste au final pas terrible.
Épileptique.
C'est une fausse bonne idée. Parce que quand on lance le jeu pour la première fois, on dit, mais c'est pas moche, hein,
ah non,
ça bouge assez bien. Donc il faut se dire, donc c'est un rail shooter. Donc on a l'impression d'être dans un F-Zero. On voit son vaisseau de derrière. Il y a un défilement à la F-Zero. À part qu'on ne reste pas collé au sol et que là on peut se déplacer sur les deux dimensions de l'écran en fait pour éviter les ennemis ou les blocs qui sont là
ou les boulettes.
Voilà, ou les boulettes. On peut tirer, évidemment, si c'est un shooter, pour détruire justement ces blocs
c'est
et ces ennemis.
C'est pratique.
Mm-hmm. Et après, en fait, on suit le chemin qui a tracé au sol. On peut et des fois, la route se sépare un petit peu en deux, mais ce n'est pas des routes alternatives. On ne peut pas appeler ça des routes alternatives. C'est vraiment des chemins qui prennent deux petits embranchements différents pour revenir au même endroit 100 mètres plus loin.
Ouais.
Quoi. Donc,
et puis c'est très rectiligne, hein. Il ne faut pas s'attendre à des virages.
Ah oui,
des choses comme ça.
Non, c'est... on ne prend pas de virage avec L et R comme à F-Zero. Il y a aussi, comme dans F-Zero, comment ça s'appelle le passage, c'est la même chose d'ailleurs pour reprendre de l'énergie.
Ouais,
la petite zone avec un effet luisant pour reprendre de l'énergie. Les bruitages, la première fois qu'on accélère, etc., on a l'impression d'être dans F-Zero. On sent que c'est un jeu qui a été, que voilà, ils sont proches de Nintendo. Nintendo leur a donné des assets qu'ils avaient préparés pour F-Zero et voilà, hein, ils se sont pas foulés. Alors, si je me souviens bien, le jeu est constitué de 8 niveaux.
Ouais, c'est ça.
Alors là, c'est 8 niveaux, un boss à la fin de chaque niveau. Bon.
Et c'est pas le dernier niveau où tu as tous les boss qui s'enchaînent?
Si, c'est ça, l'hyperzone, justement.
Oui,
c'est,
voilà,
c'est d'où le titre du jeu.
Ouais.
L'hyperzone, où, qui n'est plus qu'un enchaînement au final
de tous les boss du jeu.
Voilà, plus le dernier boss, du coup.
Ouais.
Voilà, bah, grosso merdo, on a fait le tour, là, vite fait. Bon,
alors,
on va...
Moi, pour détailler un peu, je vais sauver Buzz, là, un peu. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que... Alors déjà, on se repère assez mal sur la verticalité des déplacements. Toi, t'es pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi, j'ai vraiment eu de mal.
Bah, ça a pas été facile au début. J'ai peut-être eu une prise en main un petit peu plus rapide, mais je me galère, hein, quand même. Hein.
Et puis donc, c'est... du coup, on a notre cerveau s'attend à être en 3D, en fait. Et donc, c'est juste une impression de 3D avec le mode 7, le truc comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était vachement difficile d'éviter les boulettes et les ennemis. Surtout quand tu commences à avoir des passages un petit peu étroits sur le tracé.
Oui.
Donc, en gros, tu t'en prends plein la gueule, à moins que tu connaisses exactement le pattern d'où vient l'ennemi et où il va cracher sa boulette. Donc, j'ai trouvé la maniabilité assez pourrie et assez pourrie, d'ailleurs.
Ouais.
On va juste s'arrêter là. Et l'autre truc qui m'a aussi profondément maltraité la rétine avec ce jeu, c'est les fonds d'écran, les backgrounds qui sont putain d'épileptiques de merde.
Ah oui, c'est
What
clair.
What the fuck? C'est des trucs, mais si tu détournes, tant que tu suis la route à la limite et que tu regardes pas trop les backgrounds, les trucs comme ça peut aller. Mais si genre tu regardes quelqu'un comme on a fait quand Buzz a joué, là que je le regardais jouer, mais c'est franchement, c'est un truc à choper une crise d'épilepsie, quoi. C'est dégueulasse, ça clignote dans tous les sens, c'est...
Ah ben c'est des mares de pixels qui défilent.
Il y a que l'hyperzone du coup où t'es sur un fond noir.
Oui, très foncé, noir.
Qui m'a pas filé la gerbe et fait sortir les yeux de la tête. Mais sinon tous les autres niveaux c'est très très fatigant visuellement quoi. C'est trop chargé.
Voilà, on n'a pas précisé c'est que au niveau gameplay voilà donc. Il y a une accélération automatique, en fait.
On peut ralentir.
On peut freiner, voilà, pour ralentir. Et après, on a un bouton pour tirer. Plus tard dans le jeu, à partir du niveau 2, je crois, ou du niveau 3,
on peut
charger
le tir, ouais.
On peut charger le tir. Et voilà, c'est à peu près tout. Alors si, le petit truc rigolo, c'est qu'on change de vaisseau à chaque fois qu'on change de niveau.
Ouais, t'as une petite anime avec ton gars qui sort du vaisseau.
Qui monte dans l'autre et hop, c'est reparti.
Ouais, ça dure une seconde et demie.
Voilà, les boss, la plupart en fait sont en double exemplaire parce que c'est une variante... graphique mais très légère et très légère de pattern aussi.
Ouais, mais il n'y a pas une diversité phénoménale. Hein.
Les boss sont pas ultra durs.
Non.
Voilà.
Non, c'est plus le circuit, le rail lui-même qui est...
Oui, parce que évidemment, dès qu'on... Ça fait comme dans F-Zero, il y a des bords là, faits de petites boules, là, et dès qu'on frotte sur les boules, ben forcément... je vais retirer ce que j'ai dit. Dès qu'on frotte le bord de l'écran, le bord de la piste, on perd de l'énergie. Après, c'est à force de faire des points, on peut regagner des vies.
Ouais.
Voilà, on a fait à peu près le tour. Et ce jeu, du coup, se joue avec deux boutons et la croix. Quoi. On n'utilise même pas tous les boutons, même pas un tiers des boutons de la manette de Super NES. On n'a pas dit aussi, il n'y a pas d'option dans ce jeu.
Ah oui, non, ouais. Ouais. Puis quand tu finis le jeu, tu reboucles, tu reviens au départ. Sans rien du tout, c'est... Voilà.
Et alors, ce qui est très 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 drôle, c'est quand on commence le jeu, là on arrive sur l'écran titre, donc on voit Hyperzone, machin, tout ça, et il y a marqué « Normal » en dessous avec un petit curseur, donc on s'est dit « Ah, ça doit être la difficulté !» Eh ben non. On ne peut même pas régler la difficulté, en fait, les « Normal », si on appuie sur le côté, c'est avec la flèche, on le fait changer, ça passe en « Reverse ».
Et là, c'est juste les circuits à l'envers.
À l'envers, voilà. Rien de...
rien de bien excitant.
Rien d'excitant du tout, même.
C'est le strict minimum de rail shooter, quoi.
Oui.
C'est vraiment...
C'est une démo technique du mode 7. C'est
ouais,
tout.
Et c'est pas la plus belle.
Alors, je fais ce pixel de trop en connaissance de cause parce que, en fait, je traînais sur eBay il y a de ça un mois et demi à peu près. Et je tombe sur ce jeu en loose à 1,50€, un frais de port compris du Japon. Je fais « Oh là là, tiens, on m'offre une cartouche, là
!» C'est presque
donc,
ça.
Donc bon, je le connais pas, tiens, je vais aller quand même voir vite fait quelques images du jeu. Et je vois ça, je vois que c'est un shooter en...
Mais tu peux te faire avoir, même en regardant un playthrough.
Ah bah oui, mais je me suis fait avoir comme ça, parce que j'ai regardé pendant 50 secondes un playthrough là pour voir si ça bougeait bien, tout ça, ça avait l'air de bien bouger, j'ai vu que c'était un shooter, je me suis dit tiens, c'est original de faire un shooter comme ça, à 1,50€.
Tu risques pas grand chose.
Je risque pas grand chose. Bon, si je me suis fait un peu couler la rétine, mais sinon, voilà. Donc, c'est vraiment le jeu, voilà. Qui vaut pas plus d'un euro cinquante. Allez, 2€.
Ouais, si vous l'achetez.
2€ si vous avez pas la monnaie. Voilà.
Voilà, c'est ça.
2€ si vous avez pas la monnaie. Mais voilà, il mérite pas plus. C'était vraiment pas c'est pas le pire des jeux qu'on ait fait dans un pixel de trop, mais il mérite d'y être, celui-là aussi, quand même, parce que il est vide. En fait, il est très, très vide. Il y a énormément de recyclage. On sent, voilà, que c'est les gars de chez Nintendo qui ont filé 80% du jeu, des assets. Et puis ils ont compilé ça, ils ont décidé de faire une variante au lieu de faire une course, ils ont fait un shooter quoi.
Ouais.
Et voilà, c'était pas inspiré, apparemment c'était pour vite avoir un line-up à la sortie de la console.
Ouais.
Et voilà. Quoi.
Et oui, et montrer le mode 7 quoi.
Voilà, et voilà, c'est une démo technique du mode 7 quoi. Donc.
Mais je sais que le mode 7, moi j'aime pas ça.
Ah bah Mario Kart, moi je trouve que ça passe bien, F-Zero ça passe bien, mais alors après il y a des jeux, moi ce que j'aime pas par exemple en mode 7, c'est le déplacement sur les cartes dans les RPG,
oui.
C'est FF4 qui est en mode 7 comme ça en intro et tout, je trouve ça juste immonde,
ouais.
Terranigma qui est un des meilleurs RPG, action RPG de SNES, on est en mode 7 sur la carte pour le ciel là, mais c'est juste gerbatoire.
Ouais.
Je te montrerai parce que
j'ai déjà vu.
Tu l'as vu,
j'ai déjà vu.
Parce que celui-là je l'ai en vrai, en PAL, je l'avais acheté aussi dans un cache à l'époque à super pas cher. Et ce jeu il est fantastique, mais à chaque fois que je m'y mets, au bout de 2 heures je m'arrête parce que cette carte elle me sort des yeux quoi.
C'est moche.
C'est le gros point noir de ça. Quand c'est vraiment bien géré, ça va bien, mais...
Ouais. Mais souvent, ils en ont trop étalé du mode 7, quoi. C'était la nouvelle fonctionnalité, donc il fallait l'utiliser. Et je pense souvent, c'est un mauvais escient, quoi.
Oui, là, particulièrement. Là, ouais.
Et particulièrement dans ce jeu, ouais.
Ouais. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire là hein, sur Hyperzone. T'as quelque chose à rajouter, toi ?
Non, moi j'en ai bien dit que je l'aimais pas. Voilà.
Voilà. La musique, on n'a pas dit sur la musique, mais elle est, comment dire, on dirait du sous F-Zero aussi.
Ouais,
c'est banal, anecdotique.
Ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Donc.
Voilà.
Ça reste relativement médiocre comme tout le reste du jeu.
Voilà, c'est pas fini quoi, c'est pas le premier contact visuel est pas si mauvais, mais au bout de 5 minutes on a vite compris que c'était de l'esbrouf quoi. C'est juste de l'esbrouf quoi.
Ouais. N'achetez pas ce jeu.
Ah non, l'achetez pas.
Nous en avons fini avec ce huitième, presque fini, avec ce huitième épisode de Garo Pixel. Donc maintenant, c'est la petite partie remerciement. Donc, qui va-t-on remercier ce mois-ci ? Ben, je vais me remercier moi-même, d'être moi-même. Je vais remercier Buzz d'être Buzz.
Voilà.
Et puis, je vais remercier les développeurs de jeux vidéo de faire des jeux vidéo.
C'est vrai que là, ce mois-ci, niveau remerciement, on n'a pas grand-chose à dire. On n'a pas eu spécialement de contact avec les auditeurs ce mois-ci. Bon, j'ai pas beaucoup fait mon boulot de community manager non plus. On a peut-être été un peu moins actif sur Twitter et sur Facebook.
Oui.
Donc, ça, c'est un peu de ma faute aussi, peut-être.
Bah, je te remercierai plus. Voilà.
Voilà.
Je te remercie
bon, d'accord. Bon, bah, me remercie plus.
Je te raye des remerciements. Si vous voulez nous retrouver sur l'internet mondial, donc vous pouvez retrouver GaroPixel sur garopixel.fr et sur @GaroPixel sur Twitter, ainsi que sur facebook.com/garopixel.fr ou .com.
.fr, il me semble.
.fr. Vous pouvez me retrouver, moi, personnellement, Laz, sur Twitter uniquement. Facebook, c'est un fantôme, il est mort. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @J Lazarevitch, et je n'épellerai pas. Il y a un lien sur le site web du podcast. Et toi, Buzz, on peut te retrouver où ?
Que sur Twitter aussi, parce que je suis pas un grand fan de Facebook. Et pour tout dire, j'ai découvert Facebook avec le podcast parce qu'il fallait créer une page Facebook pour le podcast. Pour le podcast, merci. Heureusement que j'ai pas bu de bière aujourd'hui, parce que sinon ça aurait été l'horreur. Hein.
Ouais. Donc on peut te retrouver sur Twitter.
Voilà, sur Twitter, @buzz00321.
Voilà. On va conclure cet épisode 8 et... bon rétro gaming à tout le monde.
Bon rétro gaming, et puis on va vous laisser cette fois-ci avec la musique de Banshee.
Lol.
Non, finalement, on s'est dit qu'elle était trop violente, donc on va pas mettre celle-là. Hein. Voilà, pas de son. Bon, donc oui, plus sérieusement, on va vous laisser avec la musique de Tortue Ninja Hyperstone Haste, qui est assez sympa et qui est exactement la même que celle de Sur Super NES. Allez, bon rétro gaming et puis au mois prochain.
Ciao.